Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Je mettrai ma main devant ma bouche si je bâille. J'arrêterai de parler trop fort et de dire des choses sales. Je croiserai les jambes si je mets des jupes trop courtes. Je serai gentille et j'écouterai ce qu'on me dit, ce qu'on me dit. Donnez-moi de l'argent et je dirai bonjour. Donnez-moi de l'argent et je dirai au revoir. Donnez-moi de l'argent et je dirai merci. Donnez-moi de l'argent et je dirai oh monsieur, vous êtes bien aimable. Je vous jure, je n'ouvrirai pas trop grand ma bouche. Vous ne me verrez pas non plus manger avec les doigts. J'éviterai d'écarter les cuisses si je mets des jupes trop courtes. Je serai bien gentille. Je m'intéresserai à vous, donnez-moi de l'argent et je dirai bonjour, donnez-moi de l'argent et je dirai au revoir, donnez-moi de l'argent et je dirai merci, donnez-moi de l'argent et je dirai oh monsieur, vous êtes bien aimable, si vous me donnez de l'argent, je serai bien polie. Encore pour quelque temps, jusqu'à l'année prochaine, peut-être plus longtemps. Ça dépend de la somme. Ma langue dans votre bouche. Je répondrai sans vulgarité aux questions qu'on me pose. Je serai souriante, je ne serai pas méchante et je serai polie, mais donnez de l'argent, donnez-moi de l'argent.
C'était Barbara Carlotti avec le titre « De l'argent ». C'est justement d'argent dont nous parlons en deuxième partie avec notre invitée Caroline Lalande de Mosaïque Cabinet de services financiers. Et en fait, de comment parler d'argent, non pas avec nos enfants, mais avec nos parents. Bonjour Caroline.
Bonjour Chantal.
Alors, plaisir de te recevoir pour la troisième fois au fil du temps.
Toujours un plaisir.
D'abord, Caroline, c'est important de comprendre, là, de camper pourquoi on veut parler d'argent avec nos parents. Est-ce que c'est parce qu'on a des inquiétudes sur leur façon de dépenser ou bien on s'interroge sur le patrimoine familial, par exemple, si on ne sait pas s'ils ont fait ou pas un testament? Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de ces deux cas de figure et donner des conseils dans les deux cas?
Oui, en fait, comme tu le mentionnais, on parle souvent d'argent avec nos enfants ou du moins de l'importance. Mm-hmm. Mais avec nos parents, c'est aussi important, sinon plus. Premièrement, évidemment, nos parents vieillissent. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, on puisse vivre, par exemple, une inaptitude ou encore un décès. Et évidemment, quand on parle d'inaptitude et de décès, mais il y a toutes des questions légales et financières qui vont suivre. Donc, d'avoir une ouverture, une conversation avec nos parents peut éviter bien des maux de tête. On parle aussi de... Il y a différentes choses qui peuvent nous amener à vouloir discuter avec nos parents. Mais une des choses qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont d'une autre génération. Mm. Quand on parle, par exemple, au début des années 1900, la notion de carte de crédit n'existait pas. Mm-hmm. Donc, ils ont des façons de voir les finances qui sont différentes de nous. Et des fois, ils n'ont pas tout à fait évolué à la rapidité à laquelle la finance peut évoluer. Donc, par exemple, certaines personnes ont une très mauvaise compréhension de ce qu'est réellement une carte de crédit. Hein, vous savez, si on a mm-hmm. 5 000 $ sur la carte, ce n'est pas 5 000 $ qui nous appartient. Mm-hmm. Donc, si cette mauvaise compréhension-là est là, mais ça peut créer des problèmes dans le temps. Donc, c'est très important, des fois, de revoir certains aspects qui semblent fondamentaux pour nous, mais qui ne le sont pas nécessairement pour tous.
Donc, vous avez assisté à des parents comme ça qui ne comprenaient pas le fonction d'une carte de crédit et qui ont pu se mettre dans un trouble financier à cause de ça?
Oui, tout à fait. Et de ne pas réaliser, en fait, que ce n'était pas de l'argent disponible en liquidité, de l'argent supplémentaire, mais qui était vraiment un prêt qui a un coût faramineux. Là, quand on parle du 18, 18, 29 %, c'est faramineux.
Les cartes de magasin, les Canadian Tire, toutes ces cartes-là aussi, si on fait des avances de fonds.
Exact. Parce que si on regarde, par exemple, pour nos parents, quand ils avaient 20 ans, 30 ans, bien, généralement, l'accès au crédit n'était pas si facile. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment une prise de décision réfléchie. Donc, il ne faut pas sous-estimer, en fait, les mœurs quand on prend, parce qu'on prend, nous, pour acquis que certaines choses sont simples à comprendre, mais ne le sont pas nécessairement pour nos parents. Une autre situation qui peut nous amener à vouloir discuter avec nos parents, c'est si, par exemple, notre père et notre mère sont encore ensemble, mm-hmm. mais qu'on sait que, par exemple, c'est notre père qui contrôle toutes les finances depuis des mm-hmm. années. Statistiquement, les femmes vont vivre plus longtemps que les hommes.
Oui.
Donc, qu'arriverait-il à notre mère si elle se retrouve du jour au lendemain à devoir gérer tout par elle-même, elle se sentirait probablement ensevelie. Et souvent, c'est un stress, c'est une anxiété. Et un des problèmes qu'on peut voir, c'est qu'on ne veut pas nécessairement dire à nos enfants qu'on a besoin d'aide.
Oui.
Comme parents, on est supposé être là pour nos enfants et pas nécessairement l'inverse. Donc, c'est difficile pour un parent d'Annette, par exemple, qui peut se mm-hmm. sentir enseveli complètement au niveau des finances. Donc, c'est important, en ayant une bonne ouverture, de pouvoir prévenir, en fait, pour éviter des problèmes dans le futur.
Comment on peut être à l'écoute de ça, là, d'un problème potentiel que peut-être on ne nous dit pas?
Bien, je pense que, après ma barre, il faut écouter. Mm-hmm. Donc, souvent, un parent qui est prêt à s'ouvrir va nous lancer des petites pistes. Mm. Donc, ne serait-ce qu'une petite phrase en disant « Ah, j'ai eu mes relevés puis j'ai trouvé ça lourd, là, il y avait beaucoup de papier. »
Oui.
Ça, là, c'est tendre la main à nos enfants. Si vous entendez ça, mm-hmm. prenez la main qu'on vous tend. Ça veut dire que ça devient difficile à avoir une vue d'ensemble sur tous ces papiers-là. Ça devient une montagne. Quand on vieillit, des choses simples, des fois, peuvent devenir des montagnes. Donc, c'est là qu'on a besoin d'être accompagné. On a besoin de quelqu'un qui nous prend la main pour nous aider à monter cette montagne-là qu'on voit en avant de nous. Donc, quand on entend des choses de gestion de papier, mm-hmm. quand on entend « Oh, j'ai pas voulu m'en occuper, ça, c'est un bon signe. Mm-hmm. » ou « Qu'est-ce que je vais faire sans ton père?
Ouais. »
Donc, ça, souvent, c'est des ouvertures. Et si vous entendez ça, c'est probablement que votre parent, que ce soit de façon consciencieuse ou non, est prêt à faire entrer quelqu'un dans le discours de la finance.
Bien, effectivement, si vous voyez, vous le constatez chez des générations plus âgées, on voyait beaucoup, en fait, c'est ça, des femmes qui avaient moins d'éducation financière ou au contraire, c'était les femmes qui géraient les finances et le mari avait sa petite paye parce que certaines femmes, des fois, avaient peur qu'il aille le boire à la taverne du coin. Donc, on a eu autant là, de la gestion par la femme ou par l'homme, mais il reste que l'éducation financière n'était pas toujours là chez plusieurs femmes. Donc, si le mari décède, donc, comment effectivement notre mère se ramasse sans connaissance financière?
Oui, ça a des impacts qui peuvent être catastrophiques. Donc, moi, j'en ai vu plusieurs en carrière, peut-être pas des catastrophes, mais du moins des situations qui créent beaucoup d'anxiété. Mm-hmm. Puis la vie est faite pour être vécue et appréciée. Donc, on ne devrait pas avoir à passer à travers des épisodes comme ça. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des gens autour de soi qui peuvent nous aider. Parce que les finances peuvent devenir anxiogènes très, très, très rapidement. Là, c'est très difficile.
Puis à quel moment on doit discuter de peut-être même éventuellement s'occuper des affaires financières de nos parents, d'avoir une procuration pour s'en occuper? À quel moment on introduit un sujet comme ça?
Mais en fait, là, c'est vraiment la difficulté parce que rares sont les parents qui vont d'emblée demander à leurs enfants ou en parler ouvertement à leurs enfants. Donc souvent, c'est l'enfant qui doit, si on veut, entamer les premiers pas, ce qui est parfois difficile. Et là, je vous avise, il y a différents types de réactions. Donc, pour certaines, il y a des parents qui se sentent complètement ensevelis dans les papiers. Donc, ils vont peut-être plus facilement voir le bénéfice d'un enfant, par exemple, qui vient les aider.
Oui.
Mais à ce moment-là, avec ce type de parents-là, il faut rester calme et rassurant. OK? Il faut aussi faire très attention. Nous, de notre génération, on est moins papier. On a tendance à vouloir jeter. Nos parents ont tendance à vouloir tout garder. Donc, c'est important de respecter ce rythme-là de recyclage que j'appelle.
Oui. Ne pas les précipiter nécessairement là, sur les budgets en ligne et autres. Là, de respecter leurs besoins d'avoir des relevés papier.
Oui, parce que c'est le papier, c'est très, très, très important. On a des parents aussi qui sont complètement dans le déni. Ils ne veulent pas en parler. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne veut pas en parler, souvent, c'est parce qu'on ne veut pas s'imaginer soi-même en inaptitude ou à la fin de vie. Donc, il faut respecter aussi que ça provient d'une crainte de se projeter dans l'avenir comme ça. Donc, à ce moment-là, ben c'est une stratégie qui est plus douce. Puis, en fait, c'est d'expliquer que souvent, quand on est bien préparé, ben après ça, on peut mettre ça de côté puis profiter vraiment de la vie. Donc, c'est de l'amener de façon très positive.
Si on est dans le cas, Caroline, d'un parent que l'on sait là, en maîtrise de ses finances, qui a des connaissances financières, mais qu'on ne sait pas s'il a préparé justement ses papiers, il n'y a jamais eu de discussion sur le patrimoine familial, sur le testament et autres, à partir de quel âge on doit avoir ces conversations-là avec nos parents?
Mais ça, c'est difficile, hein, parce que quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas vraiment de besoin de la part du parent, c'est plus difficile de trouver sa place. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Donc, la conversation peut être un petit peu plus difficile à amorcer. Sauf qu'une des bonnes façons que je trouve, c'est que le mandat en cas d'inaptitude prévoit qu'est-ce qui se passe si jamais on était incapable d'effectuer nos décisions pour soi-même. Et le mandataire, lui, doit toujours respecter les valeurs de la personne. Et donc, qu'est-ce que la personne aurait voulu? Donc, tout ça doit être fait dans une espèce de mentalité de « on remplace l'autre personne ». Et une façon peut-être d'amener nos parents à avoir cette conversation-là, c'est de leur expliquer ce devoir-là comme mandataire. Et donc, de leur dire « c'est important pour moi de bien comprendre ce que tu veux » pour être en mesure de prendre les bonnes décisions, les décisions que tu aurais prises. Et cette façon d'amener la conversation-là peut ouvrir la conversation après à poser les vraies questions qui sont « est-ce que le mandat est fait? Qui sont les mandataires? Est-ce que le testament est fait? » etc. Puis éventuellement, plus on avance, plus la confiance s'installe, plus on est en mesure d'avoir une vision globale sur l'ensemble et pouvoir vraiment agir à titre de conseiller et d'accompagnateur.
Mais dans le cas où, justement, un parent est en parfaite santé, là, à quel âge ces discussions-là doivent avoir lieu? Est-ce que, justement, je le comprends dans le contexte où le parent peut-être en détresse financière ou ne comprend plus, mais quand le parent fonctionne super bien et est en pleine forme, est-ce que c'est à lui, à partir d'un âge X, de dire « bon, mais ça serait temps que j'informe mes enfants de mes volontés, même si j'en... » D'après moi, j'en ai encore pour 20-30 ans devant moi.
Oui, bien, on sait tous qu'on va mourir un jour. On ne sait pas quand. Donc, est-ce que vraiment une personne de 55 ans, un parent de 55 ans, qui s'ouvrirait à son fils de 30 ans, est-ce que ce serait considéré trop tôt? Je ne pense pas. Je pense que dans la mesure où nos enfants sont rendus à un âge où ils peuvent comprendre et avoir ces conversations-là, il n'est jamais trop tôt. Plus on en discute tôt, mieux nos chances de canal ouvert et de conversation et de communication simple risquent de durer à travers les années. Ce qui est le plus difficile, c'est d'attendre au moment où ça devient très émotif d'en parler, oui, parce qu'on sait que ça s'en vient. Donc, en fait, mon conseil, c'est le plus tôt le mieux.
Bien, je pense que c'est aussi une manière de dire à notre enfant de lui transmettre le message, de lui-même s'occuper de ses propres affaires, de faire en sorte qu'il soit prêt quand viendra son tour.
Oui. Oui, oui, définitivement. Puis, dans le fond, la retraite, souvent, c'est des conversations qu'on peut avoir aussi quand il y a des choses majeures qui se passent. Mm-hmm. Et c'est quoi une chose majeure? Bien, ça peut être, par exemple, la naissance de nos petits-enfants. Ça amène des mm-hmm. conversations avec nos enfants sur oui. le patrimoine, etc. Donc, ça peut être aussi la retraite du parent. Ça peut être le décès d'un proche. Mm-hmm. On parle d'un conjoint, mais ça peut être aussi une sœur, etc. Quand on commence à avoir des successions autour de nous, quand on commence à avoir des problèmes, c'est des bonnes façons d'amorcer le dialogue. Moi, sincèrement, je pense qu'à partir du moment où on est à la retraite, mm-hmm. c'est important de prendre le temps d'évaluer nos choses et de regarder avec nos enfants le futur, en fait.
Bien, Caroline Lalande, merci beaucoup de nous avoir donné des conseils pour parler d'argent avec nos parents.
Merci, Chantal.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps. Pour venir ici, il y avait tellement de vent que ma planche s'est échouée devant une statue bronzée qui m'attendait allongée sur un rocher. Elle m'a dit, elle orange d'Arabie, t'es pressé ou quoi? Allez, viens avec moi. On boira le jus des goyaves, des kiwis, des litchis ou les fruits défendus. Le temps c'est de l'argent et l'argent c'est du vent. Les temps sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps. Je somnolais dans un resto en dehors de la piste quand un rugbyman barjo m'a réveillé en sursaut. Il m'a tapé dans le dos en disant « Hey l'artiste, faut que tu retournes à Melbourne plutôt !» Je regarde la montre, ouais, déjà 3h15. J'ai un rencard à l'hôpital et je suis en retard. Alors j'ai conduit comme une ambulance. Faut pas laisser traîner les urgences. Le temps c'est de l'argent, et l'argent c'est du vent. Les temps sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps. Je garde la voiture et je croise un mendiant. Il avait une pâle figure pourtant. Il buvait en marmonnant, une chose est sûre, chaussure, t'es à côté des pompes funèbres. Commander posé sur mon bureau, ça vient d'une grenouille qui bosse aux impôts. La vie passe vite, il faut que je me grouille, faut que j'évite cet orage d'embrouille. On peut pas taxer le temps, on peut pas taxer le vent. Alors l'État taxe les gens, chacun en veut pour son argent. Depuis toujours et encore pour longtemps. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. On perd son temps en luttant contre le temps. Lutter contre les moulins d'argent, c'est lutter contre les moulins à vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent.
Alors, c'était « Le temps, l'argent, le vent » de Charlélie Couture. Question quiz pour vous. Qui êtes-vous entre les quatre profils suivants? Êtes-vous métabolique, immunitaire, hépatique ou néphrotique. Alors, on se demande ce que ça veut dire tout ça. Et là, il y a Maurice qui me regarde avec des grands yeux, l'autre côté du plexiglas. En fait, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs qui démontre quatre façons de vieillir différentes qui sont vraiment reliées à des caractéristiques là, que la recherche est en train d'examiner. Ce sont les travaux du docteur Michael Snyder et des collègues associés à l'École de médecine de l'Université Stanford. Et ils ont en fait étudié pendant 2 ans un groupe de 106 hommes et femmes en bonne santé âgés de 29 à 75 ans. Donc, à l'aide d'échantillons de sang, de sel et d'autres informations biologiques, ils ont suivi les niveaux de microbes et de molécules, comme certaines protéines, métabolites et lipides, pour voir un peu comment chacun de ces individus-là changeait avec le temps. Et ils se sont aperçus qu'il y aurait 4 grands chemins pour vieillir. Donc, métaboliques. Ceux dont l'âge métabolique détermine le vieillissement seraient plus à risque de développer un diabète et d'avoir un taux d'hémoglobine A1C élevé, donc qui est une mesure de taux de sucre dans le sang. Ceux qui sont plus influencés par le profil immunitaire généreraient en vieillissant des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires et seraient plus sujets à des maladies liées au système immunitaire. Ensuite, les profils hépatiques et néphrotiques seraient quant à eux plus sujets à des maladies du foie ou des reins, respectivement. Donc, c'est assez particulier de se dire qu'il y a une partie du chemin qui serait un petit peu tracée déjà par certains déterminants biologiques, mais on s'entend que malgré tout, on peut toujours agir dessus en se gardant en forme soi-même. Et j'insiste sur le « se gardant ». C'est-à-dire qu'on le sait très bien qu'avec l'exercice, la respiration, une bonne alimentation, boire de l'eau, un bon sommeil, on fait déjà en sorte de se garder en forme. Je vous parle également rapidement d'un film que je vous suggère qui s'appelle « The Best Marigold Hotel ». C'est une scène, en fait, d'un centre d'appel. Ce sont des seniors expatriés en Inde, donc qui décident d'aller vivre leur dernier vieux jour en Inde. Et il y a une scène comme ça où la comédienne Judi Dench, elle cherche un emploi à temps partiel dans un centre d'appel et elle finit par faire du training, donc de la consultation auprès des jeunes qui font des appels auprès des aînés pour les inviter à savoir comment faire preuve de davantage d'empathie, d'écoute et de sortir un petit peu sur le script d'appel. Donc, c'était une suggestion de film, tant qu'à être confiné, là, d'écouter des bons films vraiment intéressants, The Best Marigold Hotel. Et je vous laisse sur une chanson d'un grand homme qui nous a quitté la semaine dernière, Raymond Lévesque, et ça reprend un petit peu nos thèmes d'héritage. Donc, il y a l'héritage financier, mais il y a aussi l'héritage de toutes les valeurs qu'on nous a laissées. Donc, je vous offre l'héritage humain de Raymond Lévesque.
L'héritage humain nous vient de très loin, transmis de main à main. L'héritage humain est né d'un long chemin, poli sous l'effort quotidien. C'est la somme de nos connaissances qui allégea le poids de l'existence. Que d'efforts, que de peines muettes pour la douceur d'une maisonnette. L'héritage humain, c'est au temps lointain, un homme qui avait faim. Et de son courage nous vint le labourage, ainsi s'écrivit dans les arts. Le grand livre de nos connaissances, qui allégea le poids de l'existence. À l'effort, la peine de nos frères, joignons le nom pour le meilleur sur terre. L'héritage humain, c'est encore demain ce que chacun de nous. de sa courte vie aura fait sans bruit la main à la roue. Car le monde, aussi grand qu'il soit, ami, c'est un peu de moi, c'est un peu de toi.
L'héritage humain de Raymond Lévesque. C'est ainsi que se termine notre 36e émission. Merci à Kim Thuy. Son 4e livre, M, est publié à la maison d'édition Libre Expression. On la regarde à la table de Kim à RTV et on l'écoute sur son balado Les retours de voyage. Merci également à Caroline Lalande de Mosaïque Cabinet Services Financiers. On peut également écouter les précédentes entrevues avec Caroline, soit les épisodes du 19 janvier et du 8 décembre sur canalem.vusezvoix.com, également disponible sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify, Google Play Music et Apple Balado. Également, vous savez que nous sommes en ligne le jeudi midi à CKVL, donc une autre occasion d'écouter Au fil du temps. Au fil du temps, c'est une émission qui est produite par une équipe extraordinaire, Maurice Bolduc en régie, Louis Garon, chef d'antenne, et Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, c'est le mois de la nutrition et on retrouve Imane Lalloux, dont l'énergie contagieuse m'avait amenée à redécouvrir d'extraordinaires recettes remplies de fruits et légumes colorés. Donc, Imane Lalloux pour nous parler de la nutrition et Richard Baillargeon, historien de la musique populaire. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.